invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Janine Alcoubi, agrégée de lettres classiques, très engagée pour la cause des femmes dans la communauté juive. Et plus largement, elle milite pour une identité juive multiple avec son association Communauté Plurielle. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est son quatrième roman. Janine Alcoubi, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce quatrième roman qui vient de sortir aux éditions L'Herbier, Les Enfants du Désordre, un livre qui explore la mémoire enfouie en retraçant l'histoire croisée de trois protagonistes, tous trois de confessions différentes, catholiques, juives et musulmanes. Et ces trois confessions, ces trois personnes vont donner forcément des familles qui vont, elles, se recroiser dans la vie aujourd'hui contemporaine. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le terreau de notre société actuelle. C'est cela ?
Oui, c'est exactement ça. Cette rencontre intergénérationnelle et même plutôt transgénérationnelle entre trois familles à travers différentes générations. Et vous avez raison de parler de rencontres. Je crois que vous avez utilisé le mot parce que c'est vrai que c'est le maître mot peut-être de ce roman, cette notion de rencontre dans toutes ses dimensions et parfois dans ses dimensions extrêmement douloureuses.
Vous partez de faits historiques, hein, que ce soit forcément pour l'identité juive liée à la Shoah et au traumatisme que ça peut que ça a pu générer, hein, sur des générations et des générations, les harkis, on parle d'exécution et une personne qui a fauté avec un Allemand, pareil, ce sont des choses qui sont portées de génération en génération. Vous êtes parti donc de faits historiques, mais pas précisément, ce ne sont pas des personnages qui ont existé, ou vous avez fait des recherches sur ces personnages-là précisément. C'est plutôt l'histoire dans sa globalité.
Oui, c'est l'histoire dans sa globalité. Ce sont des personnages qui, en tant que tels, n'ont pas existé, mais qui s'inspirent fortement de personnes qui ont existé. C'est toujours la dimension de l'imagination, en quelque sorte, qui permet, et c'est quelque chose à quoi je crois vraiment, qui permet d'accéder peut-être de façon plus sûre et plus précise à la réalité. Alors, ces personnages n'ont pas existé. Cependant, le personnage, par exemple, de la femme chrétienne, je dis chrétienne entre guillemets parce qu'elle est de tradition et de culture chrétienne, ce personnage-là, son histoire m'a été inspirée par un épisode que raconte Ado Nahouri dans un de ses livres et qui m'avait beaucoup, beaucoup frappée. C'était l'histoire d'une petite fille, donc d'une femme qui était venue le trouver très fortement marquée par un traumatisme d'enfance. Et ce traumatisme, c'était d'avoir vu sa mère à l'âge de 4 ans, elle avait 4-5 ans, sa mère exécutée par un peloton d'exécution improvisée à la Libération, sous l'accusation d'avoir collaboré, en fait, d'avoir eu des relations sexuelles avec des Allemands. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait énormément marquée. Et j'ai imaginé l'histoire de cette petite fille devenue femme, comment ce traumatisme l'emprisonne, l'empêche de voir et d'éprouver d'autres choses que cette perte irremplaçable de sa mère. Mais à travers ce personnage, c'est aussi tout l'arrière-plan, bon, je le dis très très vite, tout l'arrière-plan de certaines déviations de certains résistants qui, comme on le sait, la littérature s'est aussi emparée de ce sujet, comme on le sait, en dernière minute, ayant été des collaborateurs assidus et plein de zèle, qui en dernière minute, sentant le vent tourner, retournent eux aussi leur veste et se déguisent en résistants de la dernière heure.
Vous avez remis quelque part de l'humanité dans des faits d'histoire. Vous avez mis ces personnages. Alors, vous parliez de la petite fille qui après va grandir, va elle-même créer une famille. Et tous ces personnages, en fait, vous leur redonnez une forme de dignité et vous dire que peu importe du côté où on était pendant l'histoire, l'histoire avec un grand H, il y a l'humain, il y a des sentiments, il y a des peurs et il y a une transmission comme ça que les générations d'aujourd'hui portent encore de cette histoire.
Oui, certainement, toutes les générations. Un traumatisme comme celui, alors je vais dire de la Shoah, c'est comme ça que les Juifs appellent cette chose terrible qui s'est passée, mais de façon plus générale, le traumatisme d'une perte de civilisation, d'une destruction de la civilisation. Je me réfère ici à des auteurs comme, par exemple, Poliakov, dans son histoire de l'antisémitisme, mais également des auteurs plus récents, qui, Elie Wiesel également, qui pointent dans cette chose terrible qui a défiguré le XXIe siècle, un échec de la civilisation occidentale. Dieu sait que je suis occidentale jusque dans l'âme. Tout le monde le sait, je le dis, je le pense, je le sens, mais je regarde quand même en face cette évolution catastrophique qui a fait que la civilisation la plus en pointe de l'Occident, à savoir la civilisation allemande avec ses réalisations dans le domaine de la musique, de l'art, de la littérature, de la pensée, de la philosophie, a pu verser dans cette folie de barbarie absolument illimitée. Et c'est aussi cette chose-là que je pointe. Peut-être un dernier mot pour mieux circonscrire. Je crois que ce qui m'anime toujours dans ce que j'écris, dans ce que je lis également, c'est, je vais le dire comme ça, l'éloge de la complexité. Les choses ne sont jamais univoques, ne sont jamais en noir et blanc. Elles sont toujours très complexes. J'accepte de cette complexité ce que je viens de nommer, le traumatisme, la barbarie effrénée de la Shoah et du nazisme, mais pour tout le reste, oui, les choses sont complexes et mélangées, comme l'humain.
Alors, elles sont complexes et vous avez, par la force de votre plume, de votre écriture, réussi à faire un récit fluide, alors qui commence sur fond d'actes terroristes au marché de Noël de Paris. On imagine que c'est l'attentat de Strasbourg qui a été transposé, où tous ces personnages de près de loin vont être touchés et qui vont se retrouver derrière cet acte barbare parce que les destinées, quelles qu'elles soient, comme elles ont été déjà à la sortie de la guerre, se retrouvent encore une fois mêlées dans le sang. Mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait, moi, je voulais revenir sur votre écriture, sur le fait que vous avez mené une enquête parce que ces générations se sont posées beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, parce que les choses n'ont pas toujours été transmises. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de raconter où il y a des choses qui doivent être tues encore aujourd'hui?
De façon générale, je pense que les choses dites perdent de leur caractère inquiétant et anxiogène. Et d'autre part, les choses tues, non dites, génèrent ou du mal-être chez ceux qui sont victimes de ce silence, ou parfois, souvent ces derniers temps, je crois, un désir d'enquête, de quête. C'est pour ça qu'on assiste à tellement de recherches, tellement d'enquêtes sur le passé des auteurs, des nouveaux auteurs, des recherches sur les grands-parents, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi. Mais je pense que dans la mesure du possible, la parole est extrêmement importante. Elle n'est pas toujours facile, elle est parfois même impossible. Je n'ai pas besoin de revenir sur justement l'impossibilité de parler qu'ont ressenti les déportés à leur retour, liée à beaucoup, beaucoup de raisons. D'ailleurs, c'est un thème aussi que j'explore dans mon roman, cette impossibilité absolue de parler. Mais on voit bien que dans la génération suivante, ces silences-là sont générateurs de troubles et de traumatismes et aussi de désirs de savoir.
De quête de la part des descendants,
en fait. De la part des descendants,
c'est absolument l'objet de votre livre.
Oui, exactement.
Alors, les personnages Yankel, Brahim, Jacqueline sont des personnages universels qui représentent chacun une confession avec ses traumatismes. Est-ce que vous dénoncez, vous, cette violence liée à la religion encore aujourd'hui et au nom de la religion ou au nom de la confession, certaines personnes peuvent être stigmatisées ?
Je reprends d'abord un mot que vous avez utilisé qui est extrêmement important. Ce sont des personnages universels. Oui, ce sont des personnages universels à travers leurs différences. Et il n'est pas question de nier les différences, comme c'est la tentation à l'heure actuelle dans un certain nombre de milieux et de médias également. Ils sont universels justement à travers leurs différences. Et ce qui m'émeut et ce qui m'anime également, c'est en même temps cette promotion des ressemblances sans lesquelles il n'y aurait pas d'humanité et cette promotion des différences sans lesquelles il n'y aurait pas de dialogue ou de rencontre possible. Et c'est exactement une des choses en tout cas que j'ai voulu dire dans ce livre. La violence, elle est présente dans ce roman, vous l'avez dit, il y a un attentat terrible. Mais c'est une violence qui, me semble-t-il, dépasse le religieux. La violence, bien sûr qu'il y a un certain type de religieux, un certain type de religiosité.
C'est un prétexte.
À l'heure actuelle, mais qui sert de prétexte, évidemment. Il y a une violence sous-jacente, qui est la violence de l'humain. C'est clair et net. Nous le savons depuis Caïn et Abel. Je crois que si ce récit de Caïn et Abel, qui est un récit fondateur, se trouve à l'entrée même de la Bible, ça n'est pas dénué de signification. La violence, elle gît au cœur de l'humain. Et elle n'est pas le fait de monstres. Les monstres nazis, par exemple. Hannah Arendt a montré, dans cette notion de la banalité du mal, qui a parfois été mal comprise, a montré que tout un chacun est capable de verser dans cette violence absolue, parce qu'elle gît au fond de nous-mêmes. Et que sans un travail de prise de conscience individuel et collectif qui se rend compte de cette violence-là en chacun de nous, rien ne peut se faire et nous serons, si nous n'en sommes pas conscients, nous en serons les premières victimes. Et cette violence-là, encore une fois, elle n'est pas le fait du religieux seulement. Il y a eu des violences incroyable en dehors du religieux. Je ne dis pas du tout, bien au contraire, qu'elle n'est pas aussi le fait du religieux, mais le religieux, c'est un phénomène humain, et à travers ce phénomène-là, comme à travers d'autres, la violence s'exprime. Je suis bien sûr, je reprends très vite ce que vous m'avez dit, bien sûr qu'il y a une violence à thème ou à prétexte ou à travestissement religieux aujourd'hui. Elle existe principalement dans un certain islam, on va dire dans l'islamisme, un islamisme qui est effrayant, et qui vise et qui agresse absolument tout le monde. Mais la violence est présente dans toutes sortes d'autres phénomènes également. Et elle est présente aussi dans d'autres religions. Je vous parle, il y a eu des crimes intégristes chez les chrétiens. Dieu merci, chez les juifs, c'est très, très marginal. Ça existe, ça a existé, ça existe. Mais c'est, Dieu merci pour le moment,
c'est
très marginal.
C'est le fait d'une éducation religieuse, hein.
Que ce soit
marginal, justement, cette violence.
Je crois qu'il y a un précepte fondamental que partagent toutes les religions, en fait, qui est l'interdit de tuer. Cet interdit de tuer, s'il est intégré et s'il n'est pas battu en brèche par la défense d'une cause avec un grand C, quelle que soit cette cause, cet interdit-là, s'il est bien transmis, il doit structurer l'humain. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, dans certains milieux, dans certains endroits, dans certaines causes qui sont hypertrophiées, causes avec un grand C, vous sentez l'ironie de ce que je dis, oui. Qui sont hypertrophiées et qui battent en brèche et qui rendent difficile de se structurer autour de cet interdit fondamental.
Vous avez encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. On l'entend. Alors, c'est un roman. Vous avez souvent édité des livres liés aux textes talmudiques ou bibliques en remettant la femme au centre de ses écrits. Dans un roman, vous avez l'impression que vous pouvez dire les mêmes choses et également, au-delà de la transmission, faire réellement de la pédagogie et placer ces vérités-là à travers des personnages historiques, certes, mais fictifs. Vous avez ce sentiment que vous avez passé des messages également ?
Oui. Ouais. Oui, absolument. Je pense que la fiction est un vecteur extraordinaire pour passer des messages. Alors, pour reprendre ce thème des femmes que vous avez évoqué à l'instant, il y a dans le roman un personnage historique, celui-ci, qui est Louise Weiss, qui a des liens étroits avec l'Alsace et avec Strasbourg. À Saverne, au musée des Rohan, au château des Rohan, il y a une exposition permanente sur Louise Weiss, qui est originaire de notre région. Et Louise Weiss a été une précurseur du féminisme dans la mesure où dans les années 30-35, elle a créé un mouvement qui s'appelle la Femme Nouvelle et où elle a lutté avec une intelligence et un goût de l'humour extraordinaire pour quelque chose qui pour nous aujourd'hui paraît absolument élémentaire, qui est le droit de vote des femmes. Et j'ai voulu, alors comme une partie de mon roman se passe dans ces années-là, je n'ai pas bien sûr loupé l'occasion de faire une place à Louise Weiss, à son combat, aux femmes qui l'entourent, aux hommes qui l'entourent, également dans la même période à l'antisémitisme effrayant de la société, à l'agression violente de Léon Blum, agressé par des camelots du roi et des factions d'extrême droite. Et voilà, c'est aussi toute une époque que j'ai voulu faire revivre. Et au-delà de cela, j'ai voulu aussi toucher du doigt les évolutions. Alors, par exemple, sur le thème des femmes, les évolutions qui sont liées à l'histoire, au changement, et qui font que d'une génération à l'autre, par exemple, encore une fois, sur ce thème des femmes, eh bien, les choses sont très différentes et parfois, les contacts et les rencontres deviennent difficiles.
C'est une autre façon d'amener... Alors, je ne parle pas de combat parce que vous êtes plus dans quelque chose de transmission et vous dites des choses, vous remettez la femme au milieu de tout un tas d'histoires et vous la remettez à sa place originelle. Alors que, et vous n'êtes pas dans un féminisme comme on peut l'entendre aujourd'hui, l'un contre l'autre. Vous vous remettez juste la femme à l'endroit où elle doit être, oui. Où elle a toujours été.
Exactement. Où elle n'a pas toujours été.
Où elle n'a pas toujours été. Où elle aurait dû
où
être.
Où elle aurait dû être si les facteurs sociaux, les déterminismes de tous ordres n'avaient pas gâché les choses. Et peut-être ce sera le mot de la fin, je voudrais redire encore une fois, puisque pour moi les textes bibliques, au-delà de leur lecture simpliste ou naïve ou superficielle, sont porteurs d'une vraie vérité. Dans le récit biblique de la création, l'homme et la femme sont à égalité. C'est ça sointe de chaque mot du texte. Et le travail peut-être de transmission qui doit se faire à travers l'histoire, c'est d'arriver à incarner, à concrétiser cette égalité-là et à lutter contre ces déterminismes que j'évoquais à l'instant qui ont fait que les hommes ont pris le pouvoir dans le mauvais sens du terme et ont empêché dans toutes les civilisations les femmes de s'exprimer et de parler.
Retour sur votre roman « Les enfants du désordre », c'est aux éditions L'Herbier que vous distillez tous ces messages, mais dans une histoire, ça se lit comme un roman policier. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce que il y a beaucoup d'idées qui sont très claires parce qu'on vous connaît et on connaît vos combats également, mais c'est... Ce n'est pas l'universitaire qui s'adresse à ses étudiants, ça s'adresse à tout le monde. Vous avez, vous, un retour déjà de vos lecteurs ?
Oui.
Et alors, c'est lequel ?
Très positif, très enthousiaste, des remerciements aussi de gens qui, quoique n'étant pas juifs, se reconnaissent. C'est la question qu'on a évoquée tout à l'heure de l'universalité. Et pour finir, je dirais que pour moi, le plus grand des compliments... c'est que des gens de tous attachements, de tous bords, juifs et non-juifs, puissent lire ce roman, s'y reconnaître et puissent en parler avec moi. Je trouve ça merveilleux.
Janine El-Khoubi, merci infiniment d'être passée nous voir pour nous parler de ce livre. Et puis merci en tant que femme pour le combat que vous menez. Merci à vous.
Merci à vous de m'avoir invitée.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.